les jardinières.
Préparez vos bêches et vos transplantoires, direction le potager. Lui, il est en charge de l'arrosoir, c'est Brian. Bonjour.
Bonjour Mylène.
Et pour nous apprendre les bons gestes au jardin, nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas. Bonjour Stéphane.
Bonjour tout le monde.
Stéphane Caravellas, vous êtes responsable maraîcher à la micro-ferme biologique La Rochette à Charmoil. Soyez le bienvenu chez les jardinières.
Bon réveil à toutes et à tous, c'est parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Stéphane, le printemps n'est pas tendre avec nous, hein, pluie, bise et froid, avec tout de même des températures prévues en hausse ce week-end. Est-ce que la nature supporte bien ces changements et ce printemps plutôt frais, ou c'est juste nous les humains qui ont de la peine?
C'est vrai qu'on a la plainte facile. Hein.
C'est juste.
Mais non, je pense que la nature supporte assez bien toutes sortes de climats, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que toute la pluie qu'on a eue, ça n'a pas aidé les pollinisations des arbres fruitiers et tout ça. Je pense qu'on verra la quantité de fruits qu'il y aura cette année, mais voilà, je ne suis pas un expert, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir du soleil plutôt que de la pluie quand il y a les fleurs. Voilà. Après, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire au potager? Ben, c'est la grande période des plantations, ça c'est sûr. Puisque les températures ne vont pas redescendre en dessous de zéro, à mon avis, on peut commencer à planter tous les légumes d'été sans souci, en les protégeant peut-être pendant les nuits les plus froides. Après, c'est vrai qu'on a eu peut-être du 4 ou 5 degrés là, la semaine dernière, mais ça va, je pense pas que ça va descendre plus bas que ça. Donc, allons-y, quoi. Faut vraiment planter à fond, là. C'est la saison absolue qui commence. Enfin, voilà.
Merci beaucoup Stéphane, vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs et vous avez toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone au 0901 70 20 20. Vous avez aussi le choix du SMS en tapant jardin, un espace et la question, puis il suffit de nous l'envoyer au 939 ce message, ou alors vous avez aussi la possibilité du formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions jardinières, avec la possibilité cette fois de joindre une photo.
Ce matin nous parlerons de semis et de plantes. Tonton Stéphane va nous partager ses bons conseils pour avoir une belle récolte de légumes d'ici quelques semaines.
7h, 8h, les jardinières.
Une fois que nos semis ont bien germé et devenu assez robustes, il est enfin temps de rejoindre leur place définitive en terre. Stéphane, est-ce que les plantons ont besoin justement de s'habituer à cet extérieur? Est-ce que on les met un petit coup dehors, on les rentre, ou il n'y a pas besoin, on peut directement, par exemple, ce week-end, les mettre en pleine terre?
Ben, c'est vrai que c'est toujours bien d'habituer nos plantons à l'extérieur, surtout si on les élève à l'intérieur dans la maison, dans la cuisine, ou comme ça, par exemple. Parce que c'est des endroits où il n'y a pas d'air qui circule forcément, il n'y a pas forcément de changement de température. Donc c'est vrai que si on parle par exemple des tomates ou aubergines, etc., si on les sort tout de suite après une chaude, les premiers mois bien au chaud, et puis qu'on les sort comme ça tout de suite, c'est vrai que des fois ils subissent un petit peu le choc. Mais donc oui, c'est recommandé quand même de les sortir pendant les journées ensoleillées, même à partir du mois de mars, quoi. Dès qu'il y a une belle journée, paf, on les sort, puis on les rentre la nuit, ou à partir de 15-16 heures, comme ça, pendant le mois de mars, voilà. C'est quand même bien, parce que du coup, ils ont la lumière qui vient de partout, ils ont un petit peu d'air qui circule, donc ça, voilà, ils vont renforcer leur tige, et puis il y a les températures qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'intérieur, quoi. Donc ouais, c'est vraiment recommandé.
Et donc pour aller en extérieur, le planton, il doit être bien robuste. Si on le trouve encore un peu petit, est-ce qu'il est possible ou nécessaire de le repiquer avant de le mettre dehors?
Alors ça dépend des légumes, forcément. De manière générale, plus la plante est petite, entre guillemets, moins elle va subir un choc lors de la transplantation, et mieux elle pourra, entre guillemets, reprendre au jardin. Après, effectivement, ça dépend si on parle de laitue ou si on parle de tomate. Par exemple, toutes les sonalacées, elles bénéficient quand même d'un repiquage si on les estime trop petites. Ça leur fait du bien, en fait, d'être repiquées, parce que ça va les renforcer. Elles vont refaire des racines si on les repique profondément, par exemple. Alors qu'une petite salade, même si elle a l'air assez petite, si on la repique, elle va de toute façon continuer sa croissance normalement et elle pourra bien reprendre, quoi. Donc voilà, salade, fenouil, chou, tout ça, c'est même s'ils sont petits, ça va.
Petit
voilà.
Deviendra grand.
Ouais,
le planton est enfin prêt à prendre ses quartiers dans le potager. Stéphane, on conseille parfois de faire justement tremper ce planton quelques heures dans l'eau avant de le mettre en terre. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez, vous ?
Pas forcément, mais il y en a qui le font et puis je pense que c'est très bien. Hein. Le fait de les faire tremper, c'est juste que ça réhumidifie un petit peu les mottes et les racines. Et lors de la transplantation, bah, ils vont subir le choc... voilà, il sera moins fort quand on va les manipuler. Elles vont, voilà, ils vont être un peu moins stressés. Ça permet effectivement de faire ça, de les faire tremper avant. Ça permet qu'on n'a pas besoin d'arroser après derrière la plantation. Donc même si on les repique dans un sol qui est peut-être un petit peu sec, bah, il a déjà voilà, la motte qui est déjà humide. Il n'y a pas forcément besoin de revenir derrière. Si on ne le fait pas, eh ben, c'est toujours recommandé de... arroser après la plantation, juste pour voilà, colmater la terre autour des racines et voilà, faire en sorte que le planton ait toutes les chances de repartir. Quoi.
Puis pour planter un planton, il faut un trou. Comment savoir si ce trou il est assez grand et assez profond ?
Comment savoir ? Bah, il faut juste que le trou soit d'égal volume de la motte que vous allez mettre en terre. Quoi. Et puis après, c'est toujours bien de le planter assez profondément. Donc, de manière générale, hein, que la motte, qu'on la voie plus, donc qu'elle soit recouverte d'un centimètre de terre en plus, parce que c'est vrai qu'avec la pluie, la gravité, etc., bah, la terre au-dessus, sur le dessus de la motte, aura tendance à partir sur les côtés. Et puis, si on le plante assez profondément, ça va éviter justement que la motte ressorte un petit peu de terre comme ça. Mais voilà, il faut juste que le trou soit de même taille, quoi.
Merci beaucoup Stéphane. Le temps d'une pause musicale et on se retrouve pour parler de nos fameux plantons. Et vous nous expliquerez comment les sortir de leur contenant en douceur, parce que ça c'est quand même une étape assez périlleuse.
7h, 8h, les jardinières.
Planter, c'est bien, planter correctement, c'est mieux. Ce matin, en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoille, nous parlons de plantons. Et pour les mettre au potager, eh bien, il faut les sortir de leur contenant. Et parfois, ça peut être une étape assez périlleuse. Stéphane, est-ce que vous avez des conseils pour réussir à sortir le planton de son contenant sans le massacrer ?
Bon, ça arrive à tout le monde de massacrer des plantons. Hein,
oui, c'est juste.
Même aux professionnels. Donc, ne vous en faites pas. Après, c'est vrai que, de manière générale, si vous faites vos plantons dans des plaques, par exemple, multicellules, là, ou des godets, ou voilà, un contenant en plastique, la chose à faire, c'est pas de les laisser trop longtemps dedans, parce que les racines vont continuer à pousser, vont continuer à se développer si on les oublie. Et le jour où on voudra les planter, ça va être déjà assez difficile à les sortir parce que les racines auront pris toute la place et puis le contenant sera bien tendu comme ça. Et bah, les racines feront un sacré paquet aussi. Je ne sais pas, ça arrive à pas mal de personnes ça. Et ben, là, ça stresse clairement la plante. On abîme des racines, on les déchire, etc. Alors c'est vrai qu'un des premiers conseils, c'est pas de les laisser trop longtemps, même si on les repique trop jeunes, entre guillemets, selon la norme. Mais ils vont quand même bien reprendre. Voilà. Après, sinon, c'est aussi le choix des comment vous voulez faire vos plantons, quels outils vous voulez utiliser. Nous, à la ferme, on utilise plutôt des press-mottes, justement, on en parlait juste avant. En fait, ça évite bah, tous les contenants plastiques. Et puis, en gros, c'est des mottes de terre pressées individuelles, comme ça, qui sont collées les unes aux autres. Et elles sont juste séparées par un petite paroi d'air, en fait. Et puis, les racines des plantes vont bien se développer à l'intérieur et s'arrêter aux parois de la motte sans aller plus loin. Et elles vont attendre en fait, le moment où on va les repiquer. Et à ce moment-là, ben, le développement racinaire pourra juste reprendre son cours tranquillement, sans qu'on ait stressé la plante, ni abîmé les racines, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a le choix des outils aussi par rapport à ça. Mais sinon, voilà, de manière générale, faites attention juste de ne pas les laisser trop longtemps, quoi, si vous avez des contenants.
Vous nous avez parlé pas mal de racines. Lorsque le planton est libéré de son contenant, est-ce qu'il faut les démêler, ces racines ?
Ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Forcément, si on commence à les démêler, on va faire des dégâts. Mais voilà, ça dépend peut-être de quels légumes aussi. Les professionnels, je pense que de manière générale, ils vont pas se prendre la peine de les démêler parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou voilà, ils ont 500 plantes à planter et puis ils vont pas forcément démêler chaque plante. Après, ça dépend quoi. Si c'est des plantes vivaces, ça peut valoir le coup, juste de démêler un petit peu. Voilà, si c'est des poireaux ou des aléacées comme ça qu'on repique au jardin, il y en a qui coupent les racines aussi carrément, juste à 2 cm comme ça facilite aussi le repiquage. Il y en a qui le font pas. Bon, c'est un peu plusieurs écoles, mais moi je le fais pas forcément, je les démêle pas forcément.
Faut faire des
Genre,
essais.
ouais, et puis en fait, si vous avez besoin de démêler vos racines, c'est que bah, vous avez déjà fait une erreur avant, quoi. C'est-à-dire vous les avez laissées trop
Trop
longtemps.
longtemps. Je me demandais, Stéphane, quand on sort le planton de son contenant, alors moi personnellement, j'enlève la terre et je le repique et je le plante dans le jardin où il est carrément à racines nues. C'est faux? Je devrais laisser la motte du coup?
Ouais,
Ah,
plutôt,
voilà.
ouais, clairement.
Je prends note de ce beau conseil. Donc, je laisse la motte, je le mets dans le trou et on ne va pas oublier l'arrosage. Vous en avez parlé tout à l'heure. On peut soit faire tremper ce planton quelques heures dans l'eau, mais on n'oublie quand même pas de l'arroser une fois en pleine terre.
Ouais, c'est vraiment bien, ça évite, enfin ça, comment dire, ça tempère un petit peu le stress et puis ça fait que voilà, la terre se colmate bien autour des racines. Selon quelle plante on repique, si c'est des belles plantes vivaces, un badigeon, si on plante par exemple la racine nue ou même la motte, et puis qu'il y a pas mal de racines qui dépassent de la motte, donc ce qu'on peut faire c'est badigeonner avec un peu de boue et puis planter comme ça. Et puis ça permet que ben les racines sont déjà enveloppées de terre bien humide et ouais, le plant reprend mieux.
Et puis Stéphane, parmi les problèmes rencontrés chez les jardiniers, on parle souvent de semis qui filent. La tige est bien longue mais fine et penche et il n'y a que très peu de feuilles. Est-ce que ces plantons peuvent être plantés au potager quand même?
Ça dépend la hauteur de la tige, quoi. Ça dépend de la plante aussi, mais quelle nature de plante c'est. Après, si voilà, si c'est des tomates ou des choux, par exemple, qui filent, ça peut valoir le coup quand même de les repiquer après dans un autre contenant avant de les mettre au jardin. Et puis ensuite de les habituer à l'extérieur petit à petit. Parce que voilà, ils vont refaire des racines au niveau de la tige quand on les repique profondément. Après, c'est vrai que si vous voyez, je sais pas, si c'est des laitues, des fenouilles ou bah, je sais pas quelle autre plante à feuilles et puis qui a une longue tige comme ça, moi je pense que c'est raté quoi. Ça va, voilà, vous aurez du mal à le sortir de la motte et puis clairement quand vous le sortirez, bah, il va juste clamser comme on dit. Mais
Mais on peut lui laisser une chance quand même.
vous
On
pouvez
tente.
essayer.
On peut
Après, c'est vrai
essayer.
que bah, s'il file, c'est qu'il y a Il y a déjà une négligence avant qui a été faite, c'est-à-dire il n'a pas été sorti, ou bien il est dans une pièce où il y a la lumière qui vient que d'un côté, souvent ce qui est le cas hein, dans les maisons, quand on le met au bord de la fenêtre. Donc une des techniques, c'est peut-être plutôt que le laisser toujours filer d'un côté, bah, c'est juste tourner le contenant tous les jours à l'inverse pour qu'il revienne droit, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Voilà. Des fois, je fais ça. Après, c'est vrai que ça évite qu'il file trop d'un côté pendant un petit moment, mais si vous le sortez pas, il va continuer à grandir comme ça, quoi. Et
Merci
puis
beaucoup,
voilà.
pardon
Ouais. Non, non,
Stéphane.
allez-y, c'est bon.
On va se retrouver après une pause musicale. On va parler encore un petit peu de ces plantons et surtout comment faire son choix quand on est dans un marché ou dans une jardinerie.
7h, 8h, les jardinières.
Le samedi matin, nous parlons plantes, arbres, légumes ou encore fruits. Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoil dans le Jura. Et il est prêt à répondre à vos questions jardinage.
Et pour les poser ces questions, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 et vous parlerez directement à Stéphane. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo pour illustrer votre question. Il vous suffit de remplir le formulaire formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, ou alors vous pouvez simplement nous envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question, et vous nous envoyez ce message au 939.
Stéphane, en première partie d'émission, vous nous avez parlé de plantons, comment les mettre en terre, comment les arroser. Certaines personnes n'ont peut-être pas eu l'envie ou le temps de préparer ces plantons tranquillement à la maison, mais bonne nouvelle, on en trouve beaucoup en ce moment dans des marchés aux plantes ou dans des jardineries. Alors Stéphane, comment est-ce qu'on choisit le bon planton, celui qui donnera les plus beaux légumes du jardin?
Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses, effectivement. Mais la première, c'est de choisir les variétés de légumes que vous aimez. Déjà, première chose, hein, que vous aurez envie de manger ensuite. Ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à tout acheter parce qu'on trouve ça magnifique, mais ouais, il y en a, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Après, la deuxième chose, à mon avis, qu'il faudrait faire attention, on parlait un petit peu des racines, hein, tout à l'heure. Là, ça vaut aussi. C'est-à-dire que on va essayer d'éviter, voilà, des plantons qui sont restés trop longtemps dans leur contenant et puis que voilà, qui sont proposés sur l'étalage. On va essayer de voir si on arrive à avoir les racines. Regarder un peu l'aspect général du planton. Est-ce qu'il a des belles couleurs? Est-ce que les feuilles sont bien vertes ou est-ce qu'au contraire elles sont un petit peu jaunes? Est-ce qu'il a l'air d'être très très grand ou plutôt petit et robuste? Observer un petit peu tout ça, et puis c'est vrai que sans trop se prendre la tête non plus, mais voilà, c'est vrai que faudrait éviter, voilà, des plantons qui ont des trop grandes feuilles, qui sont trop allongés, etc., parce que c'est peut-être ils ont peut-être passé trop de temps sous serre ou là où ils ont été produits, et puis ils n'ont pas été assez exposés à l'extérieur, donc voilà, ils auront peut-être du mal à reprendre chez vous. Surtout si, bon, c'est pas le cas en ce moment, mais s'il fait des journées très chaudes, très ensoleillées, ce genre de planton qui est resté à l'intérieur pendant longtemps, et puis que vous le mettez au jardin, bah là, il va vraiment subir ce repiquage, les feuilles vont se ramollir, vont tomber par terre comme ça, enfin voilà, ça dépend. Donc ouais, je vous conseille de regarder un petit peu l'aspect vraiment du planton, les légumes que vous aimez, que vous aurez envie de manger, et puis, puis voilà, puis après, demander conseil aussi aux vendeurs. C'est toujours bien.
Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu sur ces questions sur les plantons. On va maintenant passer aux questions que l'on a reçues de vous, les auditeurs, avec cette question de Michel de Tavannes qui nous parle de sa rhubarbe. Bonjour, est-ce que la rhubarbe est encore consommable lorsqu'il y a des fleurs? Pourquoi elles viennent si rapidement et qu'est-ce que j'ai fait de faux? Comment éliminer aussi les punaises de la rhubarbe? Merci beaucoup.
Alors, c'est vrai que ces histoires de fleurs de rhubarbe, ça vient assez souvent. On se pose souvent des questions. Est-ce qu'il faut les couper? Est-ce que, etc. Ben, il faut savoir que la rhubarbe, c'est une plante qui fait des fleurs et puis c'est son cycle tout à fait naturel. Donc, personnellement, je ne les coupe pas, les fleurs. Et puis, ça ne change en rien la qualité des cardes. C'est vrai qu'il y en a qui sont plutôt tendance à récolter les cardes, les premières cardes qui viennent à sortir, d'autres qui attendent qu'elles deviennent bien rouges. Ouais, y a plusieurs écoles. Personnellement, j'attends un petit peu qu'elles deviennent bien rouges. Puis même s'il y a des fleurs, ça ne va pas changer grand-chose. Au contraire, s'il y a des fleurs, bah, c'est super. Laissez-les faire des graines et vous pouvez récupérer ces graines-là et ressemer vos rhubarbes. Et comme ça, vous aurez plein de rhubarbes. Ça se ressème très facilement.
Vous pouvez offrir à vos voisins.
Exactement.
Donc on peut dire que Michel ne fait rien de faux finalement. Si elle a des fleurs, c'est juste. Et puis elle nous posait encore la question des punaises sur la rhubarbe. Est-ce qu'elle peut les éliminer?
Alors oui, Michel, tu peux les éliminer si tu as envie. Après, s'il y a souvent au printemps, il y a des punaises sur pas mal de plantes qui ont beaucoup de vigueur, qui ont beaucoup de, voilà, beaucoup de sève bien sucrée. Je pense pas que là, à moins que ça fasse des énormes dégâts, mais même s'il y a un peu de punaise sur la rhubarbe, ça va pas l'affecter grandement. Faut pas oublier que la rhubarbe fait partie de la famille des rumex, hein, donc c'est des plantes très très robustes. Donc c'est pas quelques punaises à mon avis qui va l'affecter. Après, sinon, vous pouvez toujours essayer une décoction d'ail. Donc laisser tremper quelques gousses d'ail coupées dans de l'eau pendant quelques jours. Ça va fermenter un petit peu et ça va dégager une odeur très très forte. Et puis ça, vous diluez à 10% dans de l'eau. Et puis vous pouvez asperger vos feuilles, vos cardes avec ça. Et puis ça va, voilà, à mon avis, ça aura un effet répulsif un petit peu sur les punaises et toutes sortes de champignons et autres bestioles.
Merci beaucoup Stéphane, on va se retrouver dans un instant. Nous parlerons entre autres de pissenlit dans un gazon.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas, maraîcher bio du côté de Charmoy dans le Jura. Et puis si vous avez des questions, eh bien c'est le moment de vous faire connaître, Brian.
Exactement, vous pouvez vous faire connaître soit par téléphone au 0901 70 20 20. Vous aurez l'occasion de poser votre question en direct à un autre spécialiste, Stéphane. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo pour illustrer votre question. Ça se passe sur notre site internet. Sous l'onglet émissions questions aux jardinières, ou alors vous pouvez aussi nous envoyer un SMS, vous tapez jardin un espace et votre question et vous nous envoyez ce SMS au 939.
Stéphane, nous avons reçu une question de Carole de Cudrefin. Bonjour, nous sommes envahis de pissenlits dans notre gazon. Malgré avoir scarifié, remis du semis et arraché les pissenlits à la racine avec un outil spécial, ceux-ci reviennent de plus belle. Nous sommes à côté d'un champ. Auriez-vous un conseil pour un beau gazon? Merci beaucoup et meilleure salutation. Belle journée. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez aider Carole?
Bon, les gazons, c'est pas forcément ma spécialité. Peut-être que vous aurez meilleur temps de demander à un paysagiste qui fait des gazons et puis qui a l'habitude. Après, c'est vrai que c'est vrai qu'il faut savoir déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pissenlit et quel est son rôle peut-être dans l'écosystème, dans le sol. Les gazons, souvent, les espaces gazonnés sont souvent très piétinés, parce qu'on les utilise forcément pour jouer au badminton ou n'importe quoi d'autre. Et puis c'est vrai que on tasse la terre. Les pissenlits ont aussi un peu ce rôle naturel de, avec leurs grosses racines, de venir décompacter tout ça, parce que nous, on le compacte, quoi. Donc c'est vrai que, dans tous les cas, un gazon, s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas, à mon avis, aspergé de désherbants ou ce genre de trucs, les plantes nécessaires pour la santé du sol de manière naturelle vont de toute façon revenir, quoi qu'on fasse, même si on ressème, même si on les arrache, etc. Donc, personnellement, moi, je laisserai. Après, si ça devient que des pissenlits et puis qu'il n'y a plus rien d'autre, peut-être que ça devient un peu moins agréable, mais peut-être que vous pourrez essayer de semer du trèfle, éventuellement. Ça peut... bien recouvrir le sol et remplacer un petit peu le rôle des pissenlits. Après, sinon, c'est vrai que je ne saurais pas trop quoi dire, à moins de passer à un gazon non naturel.
Synthétique, pas de pissenlits.
Pas à ce point-là. Mais...
Merci Stéphane. Vous savez, Carole, si vous nous écoutez, on va peut-être tenter de poser la question la semaine prochaine à notre invité. Peut-être qu'elle aura d'autres suggestions à vous faire. Brian, on prend la suivante ?
On prend la suivante, qui est une question qui nous vient de Jasmine de Tramelan. Elle nous envoie une magnifique photo. Bonjour, nous avons du chien-dent qui a envahi notre talus de sédum. Une partie du sédum a dû être protégée en enlevant les racines, une autre entièrement perdue. Que pouvons-nous planter sur un talus pour empêcher le chien-dent de sortir de terre ? Le champ qui est à côté en est envahi et il nous envoie toutes les graines. Merci beaucoup. C'est signé justement Jasmine de Tramelan. Peut-être que Stéphane, vous avez la photo sous les yeux ?
Ouais, à peu près, ouais.
Vous pouvez nous la décrire déjà ?
Alors, on voit un talus qui est... effectivement rempli de sédum et on voit quelques racines de chien-dent là qui dépassent. Je pense que c'est justement celle-là qu'ils ont arrachée. Je ne sais pas si le talus est placé plein sud, j'imagine, s'il y a du sédum. Après, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal de cailloux quand même. C'est vrai qu'il faut savoir que les chiens-dents, ils poussent, ils se développent dans les talus où il y a beaucoup de drainage, donc des talus secs, où les nutriments s'en vont, où il y a de l'érosion aussi. Donc peut-être qu'une des choses à faire, ce serait peut-être d'envoyer du compost ou des copeaux de bois dans le talus pour enrichir un petit peu le sol. Après, une plante qui pourrait empêcher le chien-dent, il n'y a rien vraiment qui empêche le chien-dent de passer, hein, mais qui pourrait le contenir. Il y a éventuellement du lierre peut-être, ça c'est très couvrant. Et puis ça empêche vraiment la lumière d'arriver au sol. Ça, vous pourriez essayer, peut-être. Après, c'est vrai qu'à moins d'arracher les rhizomes de chien-dent, moi, je n'ai pas forcément de conseils ni de techniques par rapport à ça. De nouveau, c'est pas vraiment mon expertise. Peut-être demander à un paysagiste. Mais après, sinon, il y a une méthode radicale, c'est de bâcher la surface. Mais dans ce cas-là, on détruit tout. Vous bâchez la surface pendant, en tout cas, 6 mois. Et puis, ça va tout détruire, entre guillemets, toutes les plantes. Ça sera suffisamment long pour détruire aussi toutes les plantes à rhizome et à bulbes ou à racines qui contiennent l'énergie de la plante. Et puis après, vous pourrez repartir à neuf, quoi, mais ça prend un petit peu de temps.
Donc, un peu plusieurs solutions à tester pour Jasmine de Tramelan. Merci Stéphane. Une question de Joëlle de Glovelier. Elle nous dit « J'aimerais savoir si je peux planter mon figuier en pleine terre dans notre région. » Donc, Joëlle vit du côté de Glovelier.
Oui. Alors, Joël, tu peux planter ton figuier, oui, sans souci. Enfin, sans souci. Voilà, peut-être juste faire attention à l'emplacement de ton figuier, le mettre plein sud, contre une façade, protéger du vent, des vents dominants et éventuellement du vent du nord, surtout si tu arrives. Bien enrichir la terre autour du plant. Et puis, si tu arrives à trouver un coin plein sud, où le figuier pourra bien se développer, il n'y aura pas trop de soucis. S'il y a des baisses de température vraiment extrêmes qui sont annoncées, ça peut valoir la peine de le couvrir. Tu prends une de ces couvertures flottantes, là, qu'on appelle là, les couvertures qu'on trouve à la Landy ou à Jumbo, qui servent à forcer les cultures. Eh bien, tu peux emballer ton figuier là-dedans s'ils annoncent vraiment du froid. Et puis voilà, sinon je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il y en a pas mal qui ont des figuiers hein, par ici dans la région. Et nous, on en a planté deux chez nous en Ajoie, dans un coin où on est face nord. Alors, ils ont survécu jusqu'à maintenant. Ils ont gelé un petit peu sur les bouts, mais ils sont encore là, quoi, donc il faudra voir.
Elle peut le mettre maintenant en pleine terre ou faudrait attendre l'automne ?
Non, ben, si tu l'as en pot et que tu l'as maintenant, mets-le maintenant. Vaut mieux le mettre. Vaut mieux pas qu'il reste trop longtemps dans son pot, quoi.
Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à la question de notre auditrice de Glovelier. Ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Il est 7h, presque 56, vous écoutez les jardinières. Ce matin, nous avons parlé de plantons et le temps file. Comme les plantes tomates en quête de lumière. Là, vous devez faire poulum, psh, bravo, très bon jeu de mots. Stéphane, avant de vous laisser filer, toujours comme les plantes tomates en manque de lumière, dites-nous, que faire au potager ce week-end ? Les températures remontent enfin. C'est vraiment un peu le temps idéal pour jardiner. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est bien ?
Oui, c'est bien. C'est vrai que la terre, maintenant, elle a un petit peu réessuyé parce qu'il n'a pas plu depuis un petit moment. Donc, ça peut être idéal de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, à remuer un petit peu votre terre, à la décompacter, à préparer les plates-bandes si ce n'est pas encore fait, ajouter du compost pour les plantations futures là, qui vont arriver sous peu. Ça, c'est pour la terre. Après, vous pouvez semer, évidemment, en pleine terre, toutes sortes de légumes. Vous pouvez semer les haricots. On peut semer les radis, les carottes, et bien sûr. Puis après, pour les plantations, c'est le moment pour planter un peu tout. Selon où vous vous trouvez et à quelle altitude, il y en a qui commencent déjà à planter leurs tomates. Moi, je pense que vous pouvez attendre selon où vous êtes, mais vous pouvez attendre peut-être une semaine en plus, juste pour être sûr. Après, sinon, si vous êtes en plaine, il n'y a pas trop de soucis. Je pense que vous pouvez les mettre... dès maintenant, planter des fleurs aussi, parce que c'est maintenant que les insectes aussi sont un peu plus dehors, parce qu'avant, il y avait beaucoup de pluie et d'eau. Planter des fleurs, semer des fleurs, ça, c'est très beau aussi.
Stéphane, on rappelle que vous êtes responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoy, dans le Jura. Merci pour votre visite et à très très bientôt chez les jardinières.
Merci, bonne journée.
Merci Stéphane et les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Bon week-end Brian et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.